Sur le bon usage des mauvaises santé. Lettre de Marcel Proust à ses proches. Madame, je vous remercie infiniment de votre lettre. Monsieur de Noailles m'a dit que vous étiez souffrante, vraiment, d'un ton qui n'admettait pas la réplique et qui ne laissait aucun doute. J'ai été bien triste que vous souffriez à ce moment, mais il ne faut pas trop maudire les mauvaises santé. C'est souvent sous le poids des trop grandes âmes que le corps fléchit.
Lettre de Marcel Proust à Anna de Noailles, 7 mai 1907.
Marcel Proust, on le sait, fut un grand malade. Frappé d'asthme dès l'enfance, la pathologie s'aggrava à partir de l'âge de 24 ans et Proust se voit condamné à une lente et progressive auto-réclusion dans sa chambre. L'une de ses principales confidentes est sa mère bien-aimée, Jeanne Proust, à qui il tient une chronique régulière de son état de santé.
Lettre à Jeanne Proust, 18 août 1902. Proust a 31 ans.
Lundi soir, après dîner, 9h, salle à manger, 45 rue de Courcelles. Ma chère petite maman, ne t'ayant pas écrit hier, je vais reprendre où j'en étais. Donc, avant-hier soir, mes ennuis ont été momentanément calmés. J'en ai profité pour me coucher vers 3h, ou même plus tôt, de la nuit, et pour ne pas prendre de trional. J'ai dormi par bribes, mais enfin bien, sauf asthme qui me restait, et tout étonné de me réveiller sans apercevoir devant moi la désolation. J'en ai profité pour rester 12 heures dans mon lit. Mon pouls est tombé de 120 à 76 et j'ai pu hier aller dîner chez Durand avec Brancovent sans avoir de crise, ni pendant le dîner, ni après, ni cette nuit, ce qui est une nouveauté depuis mes soirées quotidiennes. Bien plus, moi qui ces jours-ci faisais des ravages de poudre, ayant été repris de mon asthme, j'ai fumé à peine vers 5 heures du matin en me mettant au lit et plus une seule fois jusqu'à 8 heures ce soir. C'est-à-dire infiniment moins que quand j'étais couchée. J'ai refait 12 heures de lit et je me suis levée pour dîner vers 8 heures. Mais mes ennuis sont un peu repris, hélas. Du reste, on me trouve très bonne mine. L'asthme me paraissant enrayé, je crois que si mes ennuis pouvaient s'apaiser... Mais hélas. Tu me dis à cet égard qu'il y a des gens qui en ont autant et qui ont à travailler pour faire vivre leur famille. Je le sais. Bien que les mêmes ennuis... de bien plus grands ennuis, d'infiniment plus grands ennuis, ne signifient pas forcément les mêmes souffrances. Car il y a en tout ceci deux choses, la matérialité du fait qui fait souffrir et la capacité de la personne, due à sa nature, à en souffrir. Mais enfin, je suis persuadée que bien des gens souffrent autant et bien plus et cependant travaillent. Aussi apprenons-nous qu'ils ont eu telle ou telle maladie et qu'on leur a fait abandonner tout travail trop tard. Et j'ai mieux aimé le faire trop tôt. Et j'ai eu raison. Car il y a travail et travail. Le travail littéraire fait un perpétuel appel à ces sentiments qui sont liés à la souffrance. Quand, par tant d'autres nœuds, tu tiens à la douleur.
Citation tirée du poème « Don Paez » d'Alfred de Musset.
C'est faire un mouvement qui intéresse un organe blessé qu'il faut au contraire laisser immobile. Ce qu'il faudrait au contraire, c'est de la frivolité et de la distraction. Tu trouves étonnant que je sois allée voir Vaquez et tu dis à ce propos que tous les médecins disent la même chose. Mais ils m'ont tous dit le contraire, je ne suis pas de ton avis. Mais ayant quelque chose que je n'avais jamais eu et qui me forçait à renoncer au traitement qui me faisait du bien, il fallait bien que je consulte à la fois pour mon cœur et pour mon estomac intestin, que je croyais un peu cause de mes malaises, à tort. Faisant étant absent, papa parti, Bise occupée, j'ai pensé à Vaquez, qui est un bon garçon, intelligent et sérieux. Je ne te dis pas que je sois allée avec la certitude que si j'avais quelque chose au cœur, il me le dirait, mais du moins du moment qu'il n'y a pas d'indication spéciale et que je n'ai pas à m'occuper de mon estomac. C'est une grande chose que de le savoir. Pour en finir avec les consultations, demande à papa ce que signifie une brûlure au moment de faire pipi qui vous force à interrompre, puis à recommencer, 5 ou 6 fois en un quart d'heure. Comme j'ai pris ces temps-ci des océans de bière, peut-être cela vient-il de là.
La fin de la lettre est manquante.
À partir de l'âge de 30 ans, l'asthme devient le compagnon du quotidien de l'auteur, qui organise ses journées en les adaptant aux caprices de son sommeil et de ses bronches. Il consulte de nombreux médecins, dont son propre père, prend divers traitements et observe les effets de sa maladie avec une précision d'entomologiste. En 1904, il écrit à un collègue de son père, professeur à la faculté de médecine de Lyon.
Lettre à Georges Linossier, août-septembre 1904, 45 rue de Courcelles.
Cher monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez que dans des jours plus heureux, mon père, le docteur Proust, m'avait présenté à vous. Et je m'étais permis de vous dire la très grande admiration que j'éprouvais pour votre livre, L'hygiène du dyspeptique. Cette admiration est cause, et elle sera aussi auprès de vous mon excuse, de la démarche indiscrète que je viens faire auprès de vous. Si je connaissais une autre pensée aussi profonde que la vôtre, je vous épargnerais l'ennui de vous demander conseil. Ce conseil sera d'ailleurs forcément bien limité, car je comprends bien qu'à distance il vous est impossible de vous prononcer sur des questions de fait. Et quant à essayer de vous voir, je mène une vie trop singulière, ne laissant à ma disposition que les heures de la soirée pour songer à aller vous déranger. Voici cependant les quelques questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Je suis, au point de vue médical, il paraît, beaucoup de choses différentes, bien qu'à vrai dire, on n'ait jamais su très exactement quoi, mais je suis surtout et indiscutablement très asthmatique. Asthme de foin d'abord. Mon asthme est devenu assez vite un asthme d'été, puis un asthme de presque toute l'année. Et à la suite de repas trop copieux, il s'est compliqué d'un état d'apparence asthmatique, mais d'origine, m'a-t-on dit, intestinale et gastrique, qui est aujourd'hui depuis longtemps enrayé, bien qu'il soit prêt à reparaître à la moindre prudence. Je fais un repas par 24 heures. Et entre parenthèses, je me permets de vous demander si, au point de vue ration d'entretien, vous trouvez ce repas suffisant pour 24 heures. 2 œufs à la crème, 1 aile entière de poulet rôti, 3 croissants, 1 plat de pommes de terre ou frites, du raisin, du café, 1 bouteille de bière. Et pendant l'intervalle des 24 heures, la seule chose que je prends est, en me couchant, 1/4 de verre d'eau de Vichy, 9 ou 10 heures après mon repas. Si je prends un verre entier, je suis réveillée par de l'oppression. À plus forte raison si au lieu de l'eau de Vichy, c'est un aliment. Or, le conseil que je veux vous demander est le suivant. On m'a conseillé, pour modifier mes mauvaises habitudes de vie, de suivre un de ces traitements psychothérapiques que vous connaissez certainement, qui consiste à isoler le malade, à l'immobiliser, à le suralimenter, à le guérir par persuasion. Je voulais seulement vous demander si, en principe et d'une façon tout à fait générale, vous croyez qu'une telle cure peut être sans inconvénient pour moi, ou si vous estimez que la suralimentation peut aggraver mon état. Si à ce point de vue vous faites une différence entre les divers établissements de ce genre qui existent, soit en France soit à l'étranger, si vous savez par exemple que dans celui-ci la suralimentation sera faite avec plus de prudence et que tout ne sera pas sacrifié a priori à l'idée que tous les troubles gastriques sont d'origine nerveuse. Vous seriez bien aimable de me dire aussi votre sentiment à cet égard. Je n'ai pas besoin de vous dire que les renseignements que vous me donnerez seront absolument confidentiels. Quand je mène une vie différente, j'arrive bien à faire 2 repas. Mais alors je ne peux presque plus me coucher à cause du grand nombre d'heures, 8 heures, que je suis obligée de passer debout ou sur une chaise longue après un repas. Et d'ailleurs, dans une vie de ce genre, sans pouvoir affirmer que le plus grand nombre de repas en soit la cause, je suis toujours un peu plus oppressée, j'ai plus le sang à la tête, je suis moins bien que quand je mène la vie bizarre qui est ma vie habituelle et dont je vous parlais en commençant. Si j'avais pensé que je vous demanderais tant de choses, je ne vous aurais rien demandé du tout. Chemin faisant, tel détail me revenait à l'esprit qui me semblait de nature à vous renseigner plus exactement, à motiver plus fortement votre conseil. Je suis maintenant confus d'une indiscrétion que je sens beaucoup plus grande que je n'avais cru tout d'abord. Et ce que je vous demande surtout, c'est de m'excuser et d'accepter tous mes hommages confus et reconnaissants. Marcel Proust.
Cette lettre ne fut jamais expédiée. Lettre à Jeanne Proust, samedi soir, 24 septembre 1904.
Ma chère petite maman, j'ai fait faire mon analyse, plus l'ombre de sucre ni d'albumine. Le reste, à peu près pareil. Il faudrait que j'aie l'autre pour comparer. Mon interprétation est la suivante. Ou bien, la fatigue de dormir peu et d'être peu couchée sur le bateau m'avait donné un peu d'albumine et de sucre, mais à vrai dire, je ne le crois pas. Car en somme, j'avais bien du repos tout de même et c'était si compensé par l'air, etc. Ou bien, de faire deux repas au lieu d'un m'en avait donné. Et je ne le crois pas non plus, car nos deux repas étaient fort légers et très huilés. En un mot, je ne crois pas que j'étais moins bien à ce moment-là qu'en ce moment où je suis souffrant. Resterait donc l'hypothèse, mais ceci est peut-être antiphysiologique, un médecin seul pourrait nous le dire, où le sucre et l'albumine peuvent ne pas être éliminés en ce moment où je prends peu d'air et me donner d'autant plus de malaise et l'avoir été sur le bateau. Mais c'est peut-être impossible et fantaisiste. Ou l'air rendant la transpiration difficile, le sucre et l'albumine pouvaient être obligés de passer par l'urine et actuellement sortiraient par la peau. Je ne suppose pas que cela se passe ainsi. Je suis toujours fort patraque. Pour tâcher de mettre fin à mon mal de tête constant, à mon mal de gorge, etc., etc., j'ai pris fortement du cascara ce soir. Et j'espère que cela me retapera. En tout cas, je suis décidée à aboutir coûte que coûte. Comme j'ai fumé la matinée, je me suis rendormie jusqu'à 4h30, le temps de me lever, etc. Le dîner n'a été prêt qu'à 6h30. J'ai admiré Emmanuel Arène, cédant la présidence du Conseil Général Corse pour ne pas voter un buste de Napoléon comme grand homme corse dans la salle du Congrès. Hier, j'ai lu un Bonnier sur la séparation, toujours les mêmes plaisanteries, des citations d'Henri Marais, de l'action, de Ranc, etc. Des nouvelles mondaines quelconques. Monsieur de Nédonchel, en villégiature chez les lignes, etc. Et une, où j'ai cru relever une erreur. Une fille de Monsieur Legrand, dont la sœur est fiancée à Monsieur Georges Meunier. Or, elle est non fiancée, mais mariée. Or, le hasard m'a fait voir que c'était un vieux Figaro de 1903. Tout était pareil, et je t'assure qu'on aurait pu le lire d'un bout à l'autre sans s'apercevoir de rien. Seule la date différait. Mille tendres baisers. Marcel. PS, je me sens extrêmement bien ce soir et vais me coucher bien plus tôt, quoique ayant dîné plus tard.
Marcel Proust entretiendra toute sa vie des amitiés superficielles ou plus profondes avec de nombreuses personnalités de son temps. Sa santé fragile le contraint au fil des ans à renoncer à la vie pétillante et riche et aux fréquentations de sa jeunesse, notamment au salon de Madame Strauss. Cette grande bourgeoise, première épouse du compositeur Georges Bizet, fut l'une des inspiratrices de la duchesse de Guermantes de la recherche. « Lettre à Geneviève Strauss, vendredi 28 avril 1905.
Madame, je suis exténuée des lettres de Montesquieu. Chaque fois qu'il fait une conférence, qu'il donne une fête, etc., il n'admet pas que je sois malade. Et ce sont avant des mises en demeure, des menaces, des visites d'Ituris qui me fait réveiller, et après, des reproches de ne pas être venue. Je crois qu'on arriverait encore à guérir s'il n'y avait pas les autres. Mais l'épuisement qu'ils vous donnent, l'impuissance où on est de leur faire comprendre les souffrances qui parfois, pendant un mois, suivent l'imprudence qu'on a commise pour faire ce qu'ils s'imaginent un grand plaisir, tout cela c'est la mort. Je lis tant de choses toutes les nuits que je pourrais sans vous fatiguer vous envoyer d'innombrables extraits de lecture. Mais ce sont des choses si ennuyeuses et si graves que je ne sais pas si cela vous plairait. Cette nuit, j'ai lu des lettres de Madame Desbord de Valmore, remplies de prétentions, genre Madame D, etc.
Marceline Desbord de Valmore est une poétesse française du début du XIXe siècle, estimée par Balzac et Sainte-Beuve.
Au fond, nous avons tort de nous moquer de la prétention, des choses agaçantes. Ce sont ça, les gens de talent. Elle envoie à Sainte-Beuve des petits billets comme celui-ci. « Si vous étiez toujours notre ange, et sans qu'un tel vol vous dérange, vous viendriez demain à votre sœur serrer la main pour la reposer de la terre. On nous l'envoie en Angleterre, on la mettra sur un bateau où j'irai la chercher malgré ma peur de l'eau. » Ce qui est effrayant, c'est de voir là-dedans comme l'amour est égoïste. « Madame, je voudrais bien que vous alliez bien tout de suite et je vous envoie mes respectueuses et profondes affections. » Marcel Proust.
Lettre à Robert de Montesquieu, mi-mars 1912. Montesquieu était un critique d'art et dandy. Ami de Proust, il fut certainement le modèle du baron de Charlus.
Cher monsieur, je vous remercie de tout mon cœur de penser ainsi à moi avec tant de bonté et de me faire le plus grand plaisir qui est de me tenir au courant des productions de votre esprit. L'article était merveilleux et singulier. L'instrument de mensuration que vous appliquez aux choses est tellement vôtre qu'on souhaite vous entendre parler de toutes les questions d'art et posséder le plus grand nombre possible de vos relevés et calculs de positions spirituelles que vous prenez de votre observatoire solitaire. J'avais eu dernièrement l'intention d'aller vous y voir, le malade vers l'astrologue, comme dans une fable. Mais j'ai eu, pour mettre le comble à mes maux, l'exaspérant ennui de pertes à la bourse. Je crois que j'ai fini par justifier le mot de Madame de Sévigné sur son fils qui trouvait le moyen de perdre sans jouer et de dépenser sans paraître, puisque j'ai trouvé le moyen, sans voir personne, de faire un pouf sur les mines d'or. J'ai très envie d'aller vous voir avant que la trop grande floraison ne m'en empêche. Malheureusement, je ne me lève plus jamais. Et quand une fois par hasard je le peux, c'est à des heures impossibles pour vous. Et je suis si vite épuisée que je ne sais si j'arriverai jusqu'au Vésinet. Votre admirateur reconnaissant, Marcel Proust.
Lettre à Geneviève Strauss, mi-octobre 1910.
Madame, vous m'avez écrit une lettre adorable. La plus jolie et la plus gentille que j'ai jamais reçue de vous. Je voudrais vous dire mille choses et je n'ai pas dormi une heure depuis 4 jours. Je peux à peine écrire. Pour moi, mon manuscrit est prêt. Recopié, corrigé, etc. Ce que vous dites d'une conquête sur le passé est une preuve de plus, comme vous dites, que nos sensibilités étaient accordées. Et je ne peux pas vous en donner une meilleure preuve qu'un des titres auxquels j'ai pensé pour mon livre et pour le premier volume, Le temps perdu. Et pour le troisième, le temps retrouvé. Mais vous avez tort de croire que ce n'était qu'une imagination. Je vous assure que physiquement, et si vous avez lu les choses des physiologistes récents, l'âge est un mal physique, il est certain que vous avez cet été fait une conquête sur le passé. Je n'ai pas voulu à Trouville vous ennuyer des « vous avez bonne mine » dont on doit vous fatiguer, mais vous deviez bien sentir vous-même combien vous étiez mieux Hélas, moi, je ne peux pas faire de conquête sur le passé, dans ce sens de rajeunissement durable, puisque j'ai un mal organique et grave. Mais vous, Dieu merci, vous avez cette terrible maladie qui s'appelle bêtement « n'avoir rien », qui persécute les nerveux dans le bel âge, parce que chez eux, tout est renversé et qui ne leur donne que plus tard la santé, l'équilibre, les prérogatives de la jeunesse. Leur vie est comme certaines années désorbitées. D'ailleurs, tout cela, par l'expérience intime de votre corps, vous devez bien le sentir vous-même. J'en suis si profondément convaincue que penser à vous, non pas seulement à cause de la joie que votre gentillesse me donne, mais à cause de tout le long bonheur que je prévois pour vous, est dans ma vie si triste, si dénuée, un grand sujet de consolation. Tout cela est bien mal dit, en supprimant les nuances, la mise au point nécessaire, mais je suis brisée de fatigue. La mauvaise, celle-là, la dangereuse, même pour la vie. Et Albaret, d'autre part, qui décidément a chaque année la spécialité de vous apporter mes longues lettres, attend depuis tant d'heures, ayant cru me mener à Trianon et puis devant aller rue de Miroménil. Et il doit être si tard que je vais peut-être lui dire de n'y aller que demain.
Odilon Albaret était le chauffeur de Proust. Sa femme Céleste travaillera au service de l'écrivain à partir de 1914 et jusqu'à sa mort.
Mais j'avais tellement cru vous voir qu'il fallait que je vous écrive. Et c'est une espèce de promenade écrite, de choc en retour épistolaire de la promenade que nous n'avons pas pu faire, de transfert de force, de virement, comme la lampe électrique qui m'éclaire quand je ne veux pas y faire chauffer mon lait si je suis trop souffrant pour le prendre. Mais au moins ces paroles, d'avoir été vécues et agies, prendront peut-être la force de vous convaincre, de vous donner des raisons d'être contente, pleine d'espoir et de foi dans la vie. Que cela me ferait du bien. Votre respectueux ami, Marcel Proust. Proust, fils et frère de médecin, s'improvise souvent docteur dans sa correspondance et se lance dans des diagnostics et des prescriptions, comme dans cette lettre à son ami de jeunesse Lucien Daudet, fils d'Alphonse Daudet.
Lettre à Lucien Daudet, mai 1916.
Mon cher petit, je ne crois pas que tu aies de l'asthme. Tu as probablement de la dyspnée toxi-alimentaire. Elle se guérit de la façon suivante. Purgatif drastique énergique, eau de vie allemande et sirop de nerprin, suivi de lavages intestinaux pendant 2 jours. Pendant 3 jours, y compris les 2 jours susdits, ne prendre que du lait, c'est-à-dire même pas du sucre dans du lait, même pas de café, même pas une once de pain. Activer l'action du lait en prenant un diurétique, je crois la théobromine, mais je ne sais pas la dose. En dehors de cela, pas l'ombre d'un médicament. Au bout de 3 jours, si tu peux prolonger 4 à 5 jours, c'est encore mieux. Revenir au régime normal, progressivement. Le lait, s'il n'est pas pris de façon exclusive, étant sans avantage et long à digérer. Mais que ce régime contienne le moins de viande possible et seulement extrêmement cuite. Indifféremment blanche ou rouge. Très peu d'œufs, pas de sauce ou rarement, pas d'alcool, pas de friture ou du moins pas de friture enrobant de trop petites parties d'aliments, par exemple. À la rigueur, une sole frite, si possible pas de pommes de terre frites. Une fois tous les 15 jours, 2 pilules Boissy laxatives pour faire couler un peu ton foie. En y réfléchissant, il vaudrait mieux que je cause d'abord avec toi de tes selles. Tendrement, Marcel. Sélection de textes et lecture par Agnès Pomerol à partir de l'ouvrage édité par les éditions Lorma dans la collection Les Plis 2022. Un grand merci à Estelle pour le prêt de sa voix sur les notes et intermèdes, à toute l'équipe de Radio Primitive, Émilie, Gustine, Mathieu et Gaëtan pour la formation, l'encadrement et le soutien technique, et au SUAC de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne pour la programmation de cet atelier fiction radiophonique.